Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture. Une mémoire radiophonique.
Peintre, décorateur, scénographe, mais aussi poète et auteur dramatique, Gilles Ayot était en avril 1978 l'invité des après-midi de France Culture. À cette époque, et depuis une quinzaine d'années, Gilles Ayot peignait ces fameux animaux sauvages dans la solitude de leur captivité, derrière les barreaux des parcs zoologiques. Lorsque je représente des animaux toujours enfermés ou déplacés, ce n'est pas directement la condition humaine que je peins, disait Gilles Ayot. L'homme n'est pas dans la cage sous la forme du singe, mais le singe a été mis dans la cage par l'homme. C'est l'ambiguïté de cette relation qui m'occupe et l'étrangeté des lieux où s'opère cette séquestration silencieuse et impunie. Il me semble que c'est un peu le sort que la pensée fait subir à la pensée dans notre civilisation. Dans cet après-midi de France Culture, on retrouvait Gilles Ayot aux côtés de Francis Peter, du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, et du metteur en scène Klaus-Michael Gruber, avec lequel le peintre travailla à maintes reprises à la Schaubühne de Berlin pour les mises en scène des Bacchantes, du Roi Lear et d'Iphigénie Antoride, par exemple. Les après-midi de France Culture, l'invité du lundi, le peintre Gilles Ayot, au micro de Pierre Descargues, en 1978.
Le zoo de Vincennes, c'est le silence, comme toujours dans les zoos. Le public ne crie pas, il s'écoule lentement. Des animaux dorment dans leur cage, d'autres vont et viennent d'un bord à l'autre, silencieusement. On traîne les pieds dans la poussière, vers un paysage de banquise, de gros blocs de glace en béton peint en blanc. Sur un bloc de glace dort un ours blanc au pelage jauni. Plus loin, entre l'éléphant et la foule, il y a un fossé bordé d'une rangée de pointes d'où s'approche la grande patte ronde. Elle ne s'y posera pas. Qu'allons-nous regarder dans les eaux et comment y sommes-nous regardés? Ce sera le thème du sujet que notre invité du lundi, le peintre Gilles Ayot, dont on peut voir actuellement les peintures récentes à la galerie Flinker à Paris, a voulu traiter aujourd'hui en compagnie de Klaus Gruber, metteur en scène de théâtre, et de Francis Peter, organisateur de l'exposition « L'animal de Lascaux à Picasso » au Muséum National d'Histoire Naturelle, exposition qui posait la question de ses rapports. D'abord, nous faisons connaissance avec Gilles Ayot. Il ne peint pas le théâtre des jardins zoologiques sans raison. Il s'est raconté, tout simplement, un soir de la semaine dernière, dans notre studio.
Oui, non, mais il faut d'abord... Je vois pas comment commencer, parce que je dois commencer en... Oui, bon, alors, on commence par le début. Je suis né le 5 juin 1928 à Paris, etc. J'ai commencé à faire la peinture quand j'avais 7 ans. Et j'ai interrompu vers 15 ans ou 16 ans, quand les études ont été trop encombrantes pour continuer. Et j'ai recommencé, après la fin du travail sérieux, vers 20 ans. Entre les deux, j'avais été obligé d'abandonner la peinture pour des raisons assez bien motivées, en ce sens que mon père pensait que c'était absurde d'être peintre et qu'il fallait... Oui, absurde d'être peintre, en ce sens que, d'une part, je n'avais rien à apprendre pour le devenir et que, d'autre part, on risquait de ne jamais gagner d'argent. Donc, il valait mieux que je sois architecte comme lui, quitte à abandonner l'architecture pour faire la peinture si je voulais. Comme je ne voulais pas travailler avec lui... pour des raisons tout à fait personnelles, c'est-à-dire l'insupportation de sa tyrannie personnelle, plutôt que la désapprobation de ce qu'il faisait, puisque à partir du moment où je n'ai plus du tout dépendu de lui, au contraire, j'ai assisté à son travail au fur et à mesure, toujours, de très près, enfin, comme si j'avais travaillé avec lui, mais indépendant et donc obligé de faire quelque chose de sérieux, donc pas la peinture et pas l'architecture non plus, j'ai préparé l'école normale et je me suis intéressé à la philosophie. Et même à un certain moment, j'ai pensé en véritablement en faire un métier. C'est-à-dire que si, non, par bonheur ou malheur, je ne sais pas, j'ai réussi l'écrit du concours d'entrée à l'école normale et j'ai échoué à l'oral. Mais si j'avais réussi les deux, je serais probablement agrégé de philo et j'enseignerais quelque part ou dans un lycée ou peut-être je serais en faculté, je ne sais pas. À ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que je me suis intéressé autant à écrire qu'à peindre vers 16-17 ans. Et la philosophie allait aussi bien avec l'un qu'avec l'autre, d'ailleurs. Non, c'était le choix s'est fait entre écrire et peindre. Enfin, le choix s'est fait. Le choix était à faire entre écrire et peindre. Pourquoi je ne sais pas pourquoi c'est vers la peinture que je suis allé. Enfin, l'écriture n'était... tout ça est confus, mais... essayez de retrouver. C'est pour des raisons physiques. Je veux dire, l'écriture était quelque chose de trop... abstrait ou de trop frustrant. Bien que, naturellement, la peinture, à son tour, est elle-même frustrante, puisqu'il y a des choses qu'on peut dire avec l'écriture et qu'on ne peut pas dire avec la peinture, donc la peinture est frustrante. Mais, à mon sens, elle l'était moins que l'écriture. On a beau avoir le contact avec le papier ou le stylo, il est très réduit.
Qu'est-ce qui a tué l'écrivain philosophe?
Non, mais il n'a pas été tué, non. Le philosophe est, disons, forcément tué, en ce sens qu'on ne peut pas être philosophe si on n'est pas professionnel. Je veux dire, être philosophe, ça veut dire aujourd'hui, en tout cas, mais peut-être déjà depuis à peu près un siècle, être professeur de philosophie. Alors, quand on n'est pas professeur de philosophie, on n'est pas philosophe. Enfin, oui, on peut penser très bien à part soi, et peut-être même des fois... écrire ce qu'on pense, mais on n'est pas vraiment philosophe. Bon, donc la peinture est devenue... Non, mais tout ça s'est fait assez vite. Est devenue l'activité principale, mais de là à être la profession, il y a un pas, parce que tant que on peut très bien faire la peinture sérieusement ou comme activité principale pendant 20 ans ou 30 ans et n'être pas professionnel. En ce sens qu'on est professionnel quand on est reconnu comme tel.
Rebelote, numéro 2, avril 73, de Gilles Ayot. L'imagination est dangereuse, mais pas dans le sens que l'on croit. L'imagination est dangereuse parce qu'elle remet en question inévitablement, qu'elle le veuille ou non, ce qui est déjà établi, c'est-à-dire l'ordre. Que l'ordre établi la redoute, rien d'étonnant. C'est pourquoi, on le sait, il l'encourage, la pressant d'innover sans arrêt, de produire un rythme toujours plus rapide. C'est la meilleure manière de l'exténuer, de la dévaloriser en la miniaturisant. La dévalorisation de l'imagination est telle aujourd'hui que même ceux qui se dressent contre l'ordre établi se méfient de leur propre vitalité. C'est ainsi qu'au moment même où il serait le plus nécessaire de faire preuve d'audace et d'invention, une anxiété panique s'empare de chacun en face de sa propre singularité et le pousse soit à courir s'abriter dans la chaleur animale du travail collectif, soit à se lancer dans la recherche éperdue de critères d'objectivité incontestables, c'est-à-dire scientifiques. La recherche nous attend avec ses bras de fer, comme le jésuite de Villiers de l'Isle-Adam, debout dans l'ombre du jardin derrière la porte de la prison entrebâillée sur la liberté. « Et quoi, mon fils? Vous vouliez déjà nous quitter ?» Cette peur de la soi-disant irrationalité de l'imagination, en face de la calme puissance de la rationalité scientifique, est dangereuse. Parce qu'elle mesure la diminution de la confiance de chacun dans son énergie vitale et par conséquent l'affaiblissement de sa combativité. Cette peur engendre une inhibition inquiétante lorsqu'on se prépare à l'action.
À l'âge de 17 ans, il consistait à dire que c'était idiot d'aller dans une école d'art. Donc autant aller dans une autre école, enfin une école d'art, l'architecture aussi c'était une école d'art, mais au moins on apprenait un métier qui avait une fonction très précise, enfin qui tout en état artistique était semblable à un autre, enfin était un vrai métier.
Parce qu'au fond l'art ça ne peut pas s'enseigner.
Non, ça ne peut pas s'enseigner, mais on peut apprendre des choses très utiles. D'abord, on peut apprendre des techniques, donc la litho, etc., des techniques même assez compliquées. On peut aussi apprendre des choses qui sont moins techniques, mais disons la perspective ou mille choses de ce genre-là. On peut aussi bénéficier des idées personnelles de tel ou tel, mais étant bien entendu que ce ne sont rien d'autre que des idées personnelles, c'est-à-dire on bénéficie aussi des idées personnelles de son concierge ou de quelqu'un d'autre.
Rebelote numéro 3, octobre 73, Gilles Ayot. Là où André Malraux, Georges Bataille et autres voit dans l'Olympia de Manet le refus de toute valeur étrangère à la peinture, nous voyons de la part du peintre un intérêt forcené pour la réalité du monde dans lequel il vivait. Si riche et pleine de sens apparaît cette réalité à Manet, si fascinante sa crudité sous presque tous ses aspects, qu'elle était comme une mine de tableaux sans fin, qu'il pouvait presque la peindre au hasard. C'est ainsi, et non par indifférence à la signification du sujet, que s'expliquent certains tableaux volontairement non construits, non composés, non centrés. Il pouvait prendre la réalité du monde dans lequel il vivait par n'importe quel bout et de n'importe quelle façon en pincer la matière. Il était assuré qu'elle viendrait nécessairement tout entière. Ce détour par Bataille et son livre sur Manet était pour essayer de montrer dans quelle choucroute pédalent aujourd'hui les intellectuels les plus avancés qui font notre culture moderne. Gilles Ayot, Rebelote, numéro 3, octobre 73.
Ce n'est pas important pour moi un enseignement parce que je l'ai eu, mais par hasard, c'est un cas exceptionnel, c'est-à-dire à 8 ou 10 ans, mon père nous a appris la perspective, donc il me paraît absolument évident que dessiner un verre aux diverses hauteurs où on le voyait, etc., je le faisais parfaitement à 12 ans. Mais je pense que beaucoup n'étaient pas dans mon cas et donc, quand ils entrent dans une école d'art à 15 ou 16 ans, puisque généralement ce sont des enfants qui quittent les études secondaires un tout petit peu avant le bachot, je ne sais pas pourquoi, mais ce sont des enfants qui généralement ont commencé les études secondaires et qui ne passent pas le bachot, ou qui sont cancres, comme on dit, ou n'importe quoi, enfin, bon, et qui aboutissent aux beaux-arts. Ceux-là, il faut bien leur apprendre un certain nombre de choses que moi, par hasard, je savais, j'avais appris avant, mais ça, c'était simplement parce que j'étais dans une situation privilégiée. Il faut prendre appui sur quelque chose pour s'y opposer, même. Donc, il faut... Je ne sais pas ce que serait quelqu'un qui n'aurait jamais reçu d'enseignement secondaire. Il faut avoir eu, pendant des années, des professeurs stupides ou des programmes stupides pour pouvoir démarrer, n'est-ce pas? Il faut avoir été obligé d'étudier Clément Marot, qui est un poète répugnant, pour avoir une idée ou un élan. Comment comment peut-on stimuler l'opposition si on ne lui donne pas de quoi se alimenter? J'habitais enfin la rue Saint-Honoré à côté de la rue Castiglione. Mais surtout, il faut comprendre qu'on n'aimait que les jours de pluie parce qu'on restait enfermé et on faisait ce qu'on voulait. Enfin, je veux dire, on faisait des tableaux, à vrai dire, ma sœur et moi, parce que j'ai une sœur qui a un an de moins que moi. Donc on vivait ensemble et on combinait des choses ensemble et on détestait aller aux Tuileries, qui était le jardin où on faisait du patin à roulettes. On détestait quand des copains venaient à la maison, etc. Ben, c'était la vie normale. Enfin, c'était... Non, mais les enfants sont comme des adultes.
Et ces tableaux, qu'est-ce que c'était?
Oh, c'était de tout. De tout, des paysages, des natures mortes, des choses inventées.
Avec de la vraie peinture et des vraies toiles ou...
Non, c'était à la gouache. On peignait à l'eau. La peinture à l'huile a commencé, ça c'est très certainement par précaution des parents, je veux dire, quand on s'en met, il vaut mieux que ce soit à l'eau.
Eduardo Arroyo, Antonio Ricalcati, Vivre et laisser mourir ou la fin tragique de Marcel Duchamp. La figuration dans l'art contemporain, Galerie Creuse, Paris, septembre 1965. Assassiner un vieillard est une chose laide et qu'on n'accomplit pas en dépit des apparences d'un cœur léger. Mais la misère interdit tout luxe et Marcel Duchamp incarne aujourd'hui d'une manière si indue et non par hasard, ce dont précisément l'humanité est le plus dépourvue. L'esprit d'aventure, la liberté d'invention, le sens de l'anticipation, le pouvoir de dépasser, que nous avons eu envie d'intervenir. D'où vient donc que laisser mourir ce qui est déjà mort ne soit pas si simple? Comment se peut-il que nous nous trouvions encore empêtrés dans de semblables démêlés avec l'art et la culture, ces fatras du passé? Alors que depuis longtemps déjà, la vitalité toujours jeune et ardente de la bêtise, qui circule avec la richesse du sang dans toutes les branches des sciences humaines, démystifiant tout sur son passage, nous montre clairement l'avenir. C'est la voie royale qui mène à la conscience planétaire avec, pour l'art, d'amples perspectives d'expérimentation et d'analyse, à la hauteur et à l'unisson des nouveautés sans fin de la science et de l'industrie. La bêtise est maligne. Elle nous propose l'optimisme. Débarrassé des contestations anciennes, un art vraiment moderne nous attend, un art de participation.
Il y a 13 ans de ça, une série de tableaux, vous avez montré la mort de Marcel Duchamp. Quand on a aperçu ça, on a été assez étonné, on s'est dit, tiens, un acte surréaliste, il y a encore des gens qui osent en faire. On a été assez contents.
Oui, c'est un épisode dans une suite d'actions, parce que Duchamp suit une autre série de tableaux faits à Troyes, aussi avec Arroyo et Ricalcati, qui s'appelait Une passion dans le désert, et qui était pensé plutôt comme un film ou une bande, un peu comme un opéra, c'est-à-dire une chose mi-criant, mi-chantant, où chacun peignait à sa manière les épisodes d'une histoire. Dans Duchamp, au contraire, chacun... On s'est tous mis à peindre d'une manière équivalente ou interchangeable, enfin, pour éclairer un certain propos. Mais ce propos-là, de diverses autres manières, il avait déjà été commencé dans des actions au Salon de la Jeune Peinture et il a été suivi d'autres. Bon, alors, ce qu'il y a dans Duchamp, c'est assez clair, mais...
Il y avait combien de tableaux?
Il y avait 8 tableaux.
Et 8 tableaux. Bon, et sur un tableau, on vous voyait, il me semble, tous les trois en train de pousser du champ dans un escalier.
Oui, oui.
C'est ça. Bon.
Il y avait les divers jeux avec le nu descendant l'escalier. Mais ce qu'il y avait surtout, c'est qu'on était conscient dès le début. Ça a été fait un peu comme un policier à la télévision. Et c'est exprès de cette manière-là que ça a été fait, et ça nous a d'ailleurs été vivement reproché par certains comme Matta, qui disait « Vous avez eu tout à fait raison d'attaquer Duchamp, mais il fallait proposer quelque chose à la place alors que vous ne proposez rien. » Ça a été fait tout à fait exprès de cette manière-là, en ne proposant rien. Et à vrai dire, ce qu'on savait depuis le début, c'est que tout le monde dirait voilà un acte surréaliste. C'est très difficile, évidemment, d'attaquer sous cette forme, disons, d'assassiner en image un ancien dadaïste sans passer pour assassiner son père. Mais pourtant, il faut bien courir le risque, comme toute action est toujours mal interprétée, ou en tout cas interprétée de 1000 manières différentes à l'intérieur desquelles il y a certainement de mauvaises interprétations, on ne peut que courir ce risque-là. C'est pour ça qu'on a accompagné la chose d'un texte. Et un an après, même, j'ai écrit un second texte, et si on lit les textes, tout est très clair. Mais en même temps, tout ce qu'il y a de très clair, de beaucoup plus clair dans les textes que dans l'image, et sans efficacité, parce que très volontiers, tout le monde aurait lu ça en passant dessus. Bon, on referme, on n'y pense pas. Tandis que dans le fait que c'était en image, il y a quelque chose de provocant, de tellement plus provocant, et c'est ça qui m'a étonné, de tellement plus provocant que ça déclenche la colère des gens. Alors, dans le fait que ça déclenche la colère des gens, il y a quelque chose de positif. Et c'est pour ça que ça vaut la peine de faire les choses en image. Le fond de la chose, c'est pourquoi avoir choisi Duchamp ? Parce qu'il représente tout ce qui est le plus traditionnel et le plus conservateur dans l'art moderne, dans l'art d'aujourd'hui. Donc, en gros, dans l'époque dans laquelle nous vivons. Et il représente ce qu'il y a de plus traditionnel et de plus conservateur précisément parce que c'est camouflé sous la forme d'un dépassement. Alors, j'ai cité la manière dont les autres du même âge que lui, dont Aragon, ont reçu la chose à l'époque, montre à quel point c'est efficace, sa manière de faire. C'est-à-dire qu'effectivement, il voit là un dépassement, un renversement, alors qu'il n'y a qu'accélération du mouvement. Disons, pour faire la démonstration très clairement, Duchamp est connu pour les ready-made ou autre balivernes. Alors, ce que voit Aragon à ce moment-là, c'est la personnalité du choix remplaçant la personnalité du métier comme une transformation vraiment profonde. En fait, ce qu'il y a, c'est que entre l'idéologie du peintre qui construit son tableau, comme par exemple le cubiste, ou le cubiste qu'il a été, etc., entre construire le tableau par une activité constituante et par un véritable travail, c'est la démarche classique du peintre, ce qui fait penser à tout le monde qu'il est créateur de son objet. La démarche qui consiste à prendre un objet tout fait et à ne même pas le toucher n'est absolument pas différente. Le sens n'en est absolument pas différent. C'est simplement que le pouvoir de le désigner, même sans le toucher, le pouvoir à distance est tellement fort que ça permet à cet objet tout fait d'entrer au musée comme s'il était un tableau. C'est-à-dire que la logique est poussée à l'extrême. Ce qui se passe, c'est que la démiurgie est poussée à l'extrême dans le cas du ready-made, mais elle est du même ordre qu'avant, que du temps qu'on travaillait. Ah oui, bon, alors ça c'est une question à laquelle j'ai fini par être habitué. Je ne sais pas pourquoi.
Mais vous savez comment?
Ben oui, comme je regarde n'importe quelle autre chose.
C'est-à-dire que ça veut dire que vous passez des jours et des jours dans les jardins zoologiques? Ou bien que c'est des photographies que vous trouvez tranquillement, que ça suffit bien?
Non, c'est...
Vous parliez d'anatomie tout à l'heure, vos animaux sont-ils justes anatomiquement ou pas?
Oui, ils sont certainement justes comme serait juste aussi une nature morte que je décidais. Enfin, dans un sens, c'est un travail sur nature, c'est pas un travail. Bien qu'il soit fait naturellement dans mon atelier, quand j'ai un tableau de 2 mètres sur 2 mètres, je le peins chez moi. Il m'arrive même aussi d'utiliser la photographie et ça n'empêche pas d'être un travail sur nature. C'est-à-dire que ce n'est pas la photographie en tant que photographie qui parle, c'est simplement les renseignements qu'elle contient. Donc il faut aussi que je la prenne moi, parce que il faut que j'aie vu l'endroit et je prends la photographie par commodité pour me souvenir. Longtemps, j'ai dessiné, par exemple, et même encore, ça arrive des fois que je dessine. C'est même, curieusement, c'est plus mémorable, c'est plus efficace, un croquis qu'on fait. Parce que le fait de l'avoir fait, c'est comme quand on lit un livre en prenant des notes ou sans prendre de notes, on s'en souvient mieux. Quand on a pris des notes, on se souvient mieux de la chose quand on a essayé de la dessiner, même si c'est souvent inexact. Mais c'est long, ça prend du temps, etc. Et c'est par paresse ou manque de temps, que la photographie est utilisée aussi abondamment. Mais je ne sais pas prendre une photo, par exemple. Je fais n'importe quoi.
Il combine même ses idées jusqu'à un certain point. Et l'homme ne diffère à cet égard de la bête que du plus au moins. Quelques philosophes ont même avancé qu'il y a plus de différence de tel homme à tel homme que de tel homme à telle bête. Ce n'est donc pas tant l'entendement qui fait parmi les animaux la distinction spécifique de l'homme que sa qualité d'agent libre. Rousseau, Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité, 1754. L'homme est un singe social qui est devenu carnivore. Desmond Maurice, 1964, Primate éthologie. Nous savons ce que les animaux font et ce dont le castor et les ours et le saumon et d'autres créatures ont besoin. Parce qu'autrefois, nos hommes étaient mariés avec eux, et ils ont acquis cette connaissance de leurs femmes animales. Indien américain, cité par Lévi-Strauss et une pensée sauvage.
Mais comment est-ce qu'on passe de Marcel Duchamp au rhinocéros?
C'est-à-dire comment on passe d'une prise de position, comment on passe d'une réflexion sur une pratique à cette pratique elle-même, parce qu'au fond, Duchamp, c'est réfléchir sur ce que c'est que faire la peinture. Bon, et comment peut-on peindre après ça? Ben, ça me paraît naturel. Étant donné que dans la prise de position contre Duchamp, il n'y a pas de prise de position contre l'art, enfin, c'est pas... En détruisant, en supprimant Duchamp, on ne supprimait pas l'artiste, on supprimait une certaine conception de l'artiste, une certaine idée. Ça n'empêche pas du tout de peindre.
Ah non, la preuve, c'est que vous avez continué.
Oui, non, mais chacun de nous trois, disons, Arroyo et Recalcati également, ont très tranquillement continué à faire leur peinture.
Mais disons que c'était, au niveau de Duchamp, une réflexion esthétique. Enfin, pour simplifier, et que là, c'est une réflexion, qu'est-ce qu'on peut dire ? On ne peut pas dire animalière.
Ah oui, non, c'est... Je ne sais pas, oui, c'est comme... Mais pourquoi être obligé de nommer ?
Parce qu'on est à la radio et qu'on a des mots et qu'on n'a pas d'image. Alors, il faut essayer
de
faire comprendre.
Ce sont des tableaux, je ne vois pas pourquoi il faudrait...
En parler, si, il faut en parler.
Non, mais pourquoi... Pourquoi essayer de définir ?
Non, mais c'est de voir... Bon, cette première action, disons... Enfin, pour moi, la première action, c'est peut-être pas la première, je me suis... Peu importe, disons. Elle est une sorte de combat dans l'esthétique, et elle vise à ramener l'art, sa pratique, à une action immédiate avec des conséquences lointaines, enfin, à changer le monde.
Oui.
Et ça, on comprend très bien, et... Et puis, après, on voit une série d'images de jardins zoologiques.
Oui, bon, qui sont... Bon, mais ça, c'est le... Effectivement, c'est enraciné dans des souvenirs d'enfance, probablement. Pourquoi peint-on tel sujet plutôt que tel autre ? Peut-être... on y est attaché pour des raisons de... C'est pas d'ancienneté, mais... comme à des choses qui seraient des souvenirs premiers ou des souvenirs fondamentaux, je sais pas.
Les yeux d'un animal, lorsqu'il regarde un homme, sont attentifs et circonspects. Le même animal peut regarder une autre espèce de la même manière. Il ne réserve pas un regard spécial à l'homme. Mais aucune autre espèce que l'homme ne reconnaîtra le regard de l'animal comme familier. Les autres animaux sont bloqués par le regard. L'homme a conscience de renvoyer le regard. L'animal l'examine en traversant un étroit abîme d'incompréhension. C'est pourquoi l'homme peut surprendre l'animal. Mais l'animal, même s'il est domestiqué, peut aussi surprendre l'homme. Le regard de l'homme traverse un abîme comparable, mais non identique, de non-compréhension. Et c'est ainsi où qu'il tourne les yeux. Son regard traverse toujours l'ignorance et la peur. Et ainsi, pendant qu'il est regardé par l'animal, il est regardé comme lui-même regarde les choses qui l'entourent. La reconnaissance de ce fait est ce qui rend le regard de l'animal familier. Mais l'animal est distinct et ne peut jamais être confondu avec l'homme. Un pouvoir est donc attribué à l'animal, comparable au pouvoir humain. Mais il ne coïncide jamais avec lui. L'animal a des secrets qui, contrairement aux secrets des grottes, des montagnes, des mers, s'adressent spécifiquement à l'homme. John Berger.
Parce que les animaux sont enclos, là. Généralement, ils ont l'air en santé satisfaisante. Et puis, c'est très agréable à regarder, C'est la bonne peinture, c'est un beau spectacle, quoi. Et en même temps, ça vous met en colère, quoi. Alors là, c'est peut-être le contraire que vous voulez, si j'ai cru comprendre que vous vouliez, que la peinture, que l'art est une action immédiate, enfin,
oui.
claire et rapide.
Oui,
et,
mais non, mais je n'ai
et
pas...
Et là, tout d'un coup, c'est une espèce de proclamation extrêmement ambiguë, où dans le plaisir qu'on ressent, il y a une amertume épouvantable.
Oui, oui, c'est vrai. Non, je n'ai pas l'intention de libérer les eaux en faisant ces tableaux. Mais enfin, je ne sais pas, il me semble dans toutes les choses qu'on peut sentir aujourd'hui me paraissent ambiguës, c'est-à-dire aussi bien méphitiques qu'elles sont fascinantes. Je ne vois pas quel sujet ne porterait pas cette ambiguïté dans lui-même. Évidemment, elle est plus apparente dans les animaux. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'elle a l'air symbolique. C'est-à-dire qu'on croit que ce qu'est le singe dans sa cage, c'est une image de l'homme. Alors que pas du tout. C'est une image du singe et rien d'autre que le singe dans mon esprit.
Vous voulez pas qu'on déborde, là hein?
Ah non, non, c'est pas symbolique.
Moi, je me sens enfermé devant vos tableaux. Hein.
Non, oui, mais le rapport est la dialectique est plus compliquée. C'est-à-dire, le singe dans la cage n'est pas une image de l'homme, mais le singe a été mis dans la cage par l'homme pour être regardé par l'homme. Donc, le rapport entre l'homme et l'animal n'est pas d'identification directe du tout. Il y a quelque chose de pervers dans ce rapport, mais de pas tellement explicable, pas explicable par identification.
Mais si vos tableaux ne sont pas symboliques, si cette signification de la prison n'y est pas, alors qu'est-ce qu'il y a dedans ?
Non, non, non. Comme disait Arroyo, il disait une chose très juste. Dans cette peinture, il n'y a pas de message et il n'y a pas d'invention formelle. Donc, effectivement, on se demande ce qu'il y a.
Mmh. Et vous le savez, ce qu'il y a, vous ?
Non. Mais je serais assez content de cette définition, parce que on ne peut pas définir, peut-être, je serais assez content qu'on ne puisse pas définir aussi approximativement que ça ce qu'il y a. Il y a le tableau lui-même et rien d'autre, c'est tout.
De quelque manière que vous regardiez les animaux, même si l'animal est contre les barreaux à moins d'un mètre de vous, regardant vers le dehors dans la direction du public, vous êtes en train de regarder quelque chose qui a été rendu absolument marginal. Et toute la concentration dont vous êtes capable ne sera jamais suffisante pour le rendre central. Pourquoi en est-il ainsi? À l'intérieur de certaines limites, les animaux sont libres, mais aussi bien eux-mêmes que leurs spectateurs minimisent la rigueur de leur réclusion. La visibilité à travers la vitre, les espaces entre les barreaux, l'air libre au-dessus du fossé, ne sont pas ce qu'ils semblent être, s'ils l'étaient. Alors tout serait différent. Visibilité, espace, air ont été réduits à des signes. Le décor, qui reconnaît ces éléments comme des signes, parfois les reproduit afin de créer une pure et simple illusion, comme lorsqu'on voit des prairies peintes ou des rochers peints autour des bassins où font les cages de petits animaux. Quelquefois, c'est simplement une manière d'ajouter des indications pour faire voir quelque chose du paysage d'origine des animaux. Branches d'arbres morts pour les singes, rochers artificiels pour les ours, cailloux et eaux peu profondes pour les crocodiles. Ces adjonctions obéissent à deux propos distincts. Pour les spectateurs, ce sont comme des accessoires de théâtre. Et pour les animaux, c'est le radical minimum d'un environnement qui leur permette physiquement de survivre. John Berger. Thank you.
déclaration que votre peinture n'a ni forme de message. C'est une déclaration qu'on enregistre
non, assez c'est-à-dire, souvent. Oui, c'est-à-dire qu'en général, ce qu'on appelle forme, c'est l'appartenance à une certaine grammaire. La forme d'un tableau, ce n'est pas du tout le tableau dont il s'agit, c'est ce qui permet de référer ce tableau à tel ou tel système esthétique. Bon, alors, qu'il n'y ait pas de référence à un système esthétique donné, ça veut dire qu'il n'a pas de forme. Dans ce cas-là, je suis très content qu'il n'ait pas de forme. Et quand on dit qu'il n'y a pas de contenu, c'est-à-dire, ça veut dire qu'il n'y a pas de symbolisme dans lequel l'hippopotame serait exactement une image de l'homme, je suis aussi très content. Donc, effectivement, il n'y a rien que la chose elle-même.
Mais ça, c'est une façon que vous avez de vous garantir que ce n'est que de la peinture et que c'est de la peinture.
Non, mais ce n'est pas que de la peinture, ce n'est que la chose elle-même. Hein. Voilà l'idée qu'on a d'un rhinocéros, voilà dans quoi on le met, voilà ce qu'on a envie de voir. Voilà aussi ce qu'on voudrait qu'il ne disparaisse pas, probablement parce que c'est déjà trop tard et que ça a déjà disparu, voilà, etc., mille choses.
Oui, mais peut-être qu'un jour on mettra un bonhomme dans une piscine, dans un zoo, parce que ce sera le dernier, c'est à peu près pareil.
Oui, non, mais il n'y aura plus personne pour le...
Si, il y a peut-être l'autre homme qui ira voir celui qui est dans la baignoire. Mm. Hein? Pourquoi est-ce que ça vous...
Non, je veux dire, ça me déplaît pas, c'est pas ça. Je ne vois pas pourquoi on privilégie tellement l'idée de la prison. Parce que...
Non, ça peut être, c'est plutôt l'appartement, d'ailleurs, que la prison.
Oui, c'est ça, c'est beaucoup de choses à la fois.
Agréablement...
C'est aussi un théâtre, c'est oui. aussi, etc.
Bien sûr, mais moi j'ai pensé à un appartement du 16e arrondissement, avec des glaces, pour l'ours blanc, par exemple, c'est gentil.
Oui. Bon, mais ça veut dire qu'on pourrait penser devant ces tableaux aussi à d'autres choses que la privation de liberté. On peut penser au sommeil et à la veille, au vivant et au non-vivant, à l'habitat et à l'habitant, l'inadéquation de l'habitat pour l'habitant. Il y a mille choses qui sont un peu plus subtiles et moins immédiatement évidentes, mais qui comptent autant que... Cette notion simpliste de liberté, privation de liberté, etc. Par exemple, je ne sais pas du tout ce qu'il en est dans le fond, mais il est évident que dans le jardin zoologique, il y a des animaux qui sont comme des coqs en pâte, très heureux. Les animaux qui ne vivent que de terreur, par exemple, qui n'ont d'armes que la fuite... Certainement, s'engraissent et dorment tout à fait tranquillement dans le jardin zoologique. Et certainement, d'autres animaux, ceux qui sont faits pour la course, mais non dans la fuite, mais dans la poursuite, ou bien, au contraire, ont une vie insupportable, ça c'est clair.
Oui, les chasseurs peuvent plus chasser, quoi.
Oui.
Oui, c'est évident. Non, alors, moi, je suis content que vous ayez dit ça et que je vous ai un peu provoqué, excusez-moi, mais vous n'êtes pas contre toute interprétation. Il y a une interprétation qui vous gêne parce qu'elle est un peu simple, celle de la prison, mais
oui.
Il y en a bien l'autre qui ne vous gêne pas. Et quand vous me disiez tout à l'heure, il y a un rhinocéros et puis c'est tout, débrouillez-vous avec. Rhinocéros du 16e arrondissement, avec l'ascenseur et l'eau chaude, l'eau froide, on est bien d'accord. C'est une prison, si vous voulez, ou si vous ne voulez pas, mais... Vous n'êtes pas contre une interprétation
Non, je ne suis pas contre une
interprétation.
Enfin, je veux dire, elle est inévitable. Mm-hmm. Donc,
oui.
Mais quand même, je souhaiterais, comme Rimbaud disait à sa mère, que ça soit pris littéralement et dans tous les sens, et pas comme une allégorie.
Marginalise. Ghetto, bidonville, prison, maison de fous, camp de concentration ont quelque chose de commun avec les eaux. Mais Il est en même temps trop facile et trop évasif de se servir du zoo comme d'un symbole. Le zoo rend manifeste les relations entre l'homme et l'animal, rien d'autre. La marginalisation des animaux, partout où domine le capitalisme ou ses impératifs de production, se prolonge avec la marginalisation et la liquidation de la seule classe sociale qui, à travers l'histoire, est restée familière avec les animaux et a gardé la sagesse qui accompagne cette familiarité. La moyenne et petite paysannerie. Cette sagesse se fonde sur l'acceptation du dualisme qui est à l'origine même de la relation entre l'homme et l'animal. Le refus de ce dualisme est sans doute un des facteurs qui ouvre le mieux la voie au totalitarisme moderne. John Berger.
Qu'est-ce que tu penses, toi?
Elle est heureuse.
Je sais pas, moi.
Est-ce que tu crois qu'ils sont heureux, les animaux, ici?
Non.
Pourquoi? Où est-ce que tu aimerais les voir?
Dans la liberté.
Dans une grande forêt, alors?
Oui. Oui.
Est-ce qu'ils ont l'air malheureux? Regarde-les. Décris-les, là. Quel est l'animal qu'on regarde?
Moi, je regarde celui-là.
C'est quoi, ça?
Un ours.
Et tu aimes lui donner à manger?
Oui, j'aime bien.
Tu crois que ça lui fait plaisir?
Oui.
Et vous les trouvez malheureux?
Pas malheureux.
À quoi vous voyez?
Il y en a certains qui ont l'air malheureux, oui.
Lesquels, surtout?
Il fait le beau. Tiens.
Comment est-ce qu'il fait le beau?
Comme ça.
Les animaux qui sont enfermés ici dans le bois de Vincennes, là. Oh, c'est... Enfin, je suis africain et puis c'est un peu empreint d'une certaine tristesse. On voit que c'est l'asservissement quand même de l'animal qui ne peut pas retrouver sa liberté. Ça fait un peu mal au cœur, surtout pour certaines races. D'autres non. Par exemple, les lions et les ours, c'est des races un peu supérieures. Ils sont fiers, c'est le roi des animaux. Ils sont un peu costauds, ça va. Mais mettons, l'éléphant de mer et tout ça, là, on sent visiblement qu'ils ne sont pas heureux. Voilà.
C'est le décor aussi qui vous gêne, dans
non,
lequel
le
ils sont enfermés?
Non, le... Si vous voulez, oui, il y a un peu de décor parce qu'ils n'ont pas assez d'espace vital, si vous voulez.
Et vous êtes pourtant là en famille avec votre
oui.
femme et vos enfants.
Oui.
C'est un plaisir, c'est une promenade quand même pour vous.
Oui, c'est une promenade, si vous voulez, parce que je suis en vacances, moi je suis professeur. Et comme on est en vacances, les enfants s'ennuient, on ne sait pas où les amener. Bientôt c'est la rentrée, bon, il faut faire une petite sortie pour leur faire plaisir, comme ils ont été sages.
Qu'est-ce qui te plaît surtout ici?
Les hippopotames.
Oui. Pourquoi?
Parce qu'ils sont bien.
Oui. Tu leur donnes à manger?
Oui, ça va.
Et vous savez qu'il y a un peintre qui s'appelle Ayo et qui a été inspiré par le spectacle des animaux enfermés derrière leur cage et qui en a fait des peintures. Est-ce que vous auriez idée d'avoir chez vous une de ces toiles?
Non, je n'ai jamais eu la chance ni l'occasion. Je m'intéresse pas beaucoup à la peinture. Chacun sa discipline. Vous savez, à l'heure actuelle, comme on dit dans les facultés, si on s'intéresse à une seule racine, c'est-à-dire la germination d'une racine de haricot, on s'aperçoit qu'on consomme toute une existence sans parvenir à expliquer le phénomène. Moi, je suis économiste, je suis docteur en sciences économiques. Bon, ben, je me contente de mon...
Chacun son métier.
Chacun son métier.
Mais est-ce que vous trouvez, oui, mais est-ce que, vous trouvez que cet endroit peut être un lieu d'inspiration et de création pour un peintre?
Absolument, oui. Avec les paysages qui rappellent un peu l'Afrique, la montagne. Et puis enfin, c'est un peu... Il y a des aspérités, vous voyez, c'est pas plat comme relief. C'est ça. Je pense que c'est tout.
Est-ce que vous avez regardé avec un peu de précision le regard justement des animaux ici?
Le regard des animaux? Non. Il y a, comme je vous ai dit tout à l'heure, certains animaux qui m'inspirent la tristesse. On le voit, c'est visible ça. Mais enfin, aller jusqu'à regarder le regard des animaux, je pense que cela relève un peu de la psychologie ou bien de...
Il faudrait être spécialiste.
Il faut être spécialiste, c'est cela, ce que je veux dire.
À chaque fois, on trouve un plaisir nouveau, vous savez. Et le petit vient souvent et... Il est toujours content d'en trouver le zozo, des animaux nouveaux, des choses qu'il retient mieux maintenant que lorsqu'il était plus jeune. Quoi.
Et qu'est-ce que vous inspire le spectacle de ces bêtes?
Bien sûr, on s'imagine qu'elles ne manquent de rien ici, qu'elles sont bien traitées et bien acclimatées, puisque beaucoup sont nés aux zoos, mais quand même, dans la nature, elles seraient mieux, hein, peut-être. Enfin, nous sommes contents de les voir, de les contempler.
Et toi?
Lui, il adore les animaux.
Qu'est-ce que tu aimes ici surtout?
Les lions.
bien.
C'est du préfère. Et vous l'avez pas dit?
Non, lui il aime tous les animaux, alors il en a. Et...
Oui, pourquoi les lions?
Parce que c'est les plus féroces.
Sanguinaires dans ton genre, toi.
Et comment tu les trouves ici, ces lions? Est-ce que c'est là, enfin, est-ce que c'est dans ce décor que tu les préfères?
Non, je préfère aller voir dans la savane.
Mais est-ce que ça te gêne de les voir au travers des barreaux?
Non.
Est-ce que vous auriez idée, madame, d'avoir chez vous des peintures représentant des animaux enfermés derrière des barreaux?
Sûrement pas.
Non, je vous le dis, je vous pose la question parce qu'un peintre s'est inspiré de ces scènes, de ce décor.
Si je voulais des peintures d'animaux à la maison, je préférerais les avoir en liberté, voir comme on a l'habitude de les voir. Absolument dans leur décor, ou même comme cela, mais enfin sans barreaux. Hein. Je n'aurais pas l'idée d'avoir un lion derrière ses barreaux, par exemple. Non.
Là, on les voit qu'ils sont malheureux quand même. Ils n'ont pas l'espace qu'ils ont pour courir et tout. Hein.
À quoi vous voyez ça?
Ben, on voit les petites bêtes qui sont couchées dans un petit coin, on les voit malheureux. Par contre, vous allez dans les cabanes, on voit toutes sortes de buffes, tout ça, qu'ils ont la liberté de les voir dans la forêt quand on les regarde à la télévision.
Et pourquoi est-ce qu'à votre avis, les hommes sont fascinés par le spectacle des bêtes? On les voit les regarder sans rien dire.
Oui, quand on veut voir, parce que nous on habite à Argenteuil, mais quand on veut voir vraiment les bêtes, bon ben on les voit à la télévision, mais quand on veut vraiment les voir, on vient ici. Parce que là, il y a toutes sortes d'animaux.
Est-ce que vous pensez qu'un peintre peut être inspiré par le spectacle de ces bêtes en cage?
Un peintre? Oui. Moi, je crois parce que, voyez, on admire les paons. Ben, un paon, on ne s'imagine pas qu'il peut faire de belles choses. Et moi, je l'ai vu en broderie, alors le paon. Ma grand-mère l'avait en broderie. Et vous savez, c'est vraiment joli, un paon. C'est beau. Mais un peintre, s'il veut dessiner quelque chose de bien, il peut venir ici. Il y a de belles choses à peindre, c'est vrai.
C'est la première fois que tu vois les animaux ici?
Ben réponds,
Michel, réponds à la dame.
Non, mais s'il veut pas. Hein,
non, vous savez, il a jamais vu ça, ce gosse-là. Hein. Bon, ben il les voit à la télévision. Mais monter dans les trains, c'est pareil, c'est la première fois qu'ils montent dans les trains, dans les métros. Bon, ben nous, on a l'habitude parce
c'est
qu'on vient, on vient fréquemment ici. Puis les gosses, bon, ben, ils viennent avec l'école aussi. Mais alors, quand on a quelqu'un qui vient de chez nous, bon, qui vient chez nous d'assez loin, bon, ben, on vient lui faire voir le zoo. Parce que pareil, qu'est-ce que vous lui faire voir? Par la Tour Eiffel, mais le zoo. Bon, ben, on préfère encore l'emmener au zoo qu'à la Tour Eiffel. Voyez-vous, alors. Parce que là, on voit vraiment, on ne connaît pas toutes les bêtes, mais on les voit sur les pancartes. Alors on ne peut pas s'imaginer quand même. Regardez ça, c'est joli quand même. On admire ça, ça fait déjà un bon bout de temps, vous savez.
Surtout quand on habite en région.
Approchez-vous, monsieur.
Approche-toi, ben approche-toi.
Ne bah, faites pas comme l'enfant.
Non, parce qu'il dit surtout quand on habite en HLM.
Oui, ça, c'est
alors, vous savez, quand on vient là, bah, c'est un peu la campagne quand même. Ce que vous voulez. Mais encore maintenant, comme on disait tout à l'heure avec mon mari, il n'y a pas tellement de belles choses. Il faut venir en été. Alors en été, on voit vraiment, on peut monter les gosses sur les chameaux, on peut les monter dans les petites voitures. Alors là, c'est agréable. Bon, ben, les gosses, ils ont les vacances, vous savez, comme celui-ci, bon, moi, je l'ai vu en vacances scolaires. Bon, on peut venir au mois d'avril, il repart dimanche. Alors, vous savez, on vient le faire voir carrément avant. Comme ça, il pourra dire, j'ai vu ces bêtes-là, je les ai vues.
Il aime?
Il adore.
Vas-y. Non, enfin, je vais simplement dire que c'est pas très réjouissant de voir des animaux en cage comme ça. Et c'est assez lamentable. Enfin, ça dépend. Enfin, j'ai pas vu exactement tout le zoo, mais c'est assez lamentable. Enfin, je sais pas.
Oui, pourquoi?
Parce qu'ils ont l'air assez malheureux en général et que. Enfin, je sais pas. J'ai pas visité tout le zoo. Je peux pas dire exactement ce qu'il y a né, mais enfin, à première vue comme ça, c'est pas. C'est pas très réjouissant.
Ouais,
pas.
Qu'est-ce qui vous gêne alors dans ce spectacle? C'est le décor? Sont les barreaux?
Non, c'est le fait de les voir tourner comme ça dans un espace restreint. C'est ça surtout, je crois. Ils ont l'air assez malheureux, enfin, je sais pas, c'est comme ça au premier abord.
Alors, qu'est-ce que les gens, les visiteurs viennent chercher, à votre avis, dans le spectacle d'un zoo et des animaux?
Dépaysement par rapport à la ville, par rapport à beaucoup de choses, par rapport à l'ennui, une espèce de solitude aussi, se retrouver en contact avec l'animal, je sais pas, ça va être assez... une espèce de retour aux sources intérieurement, je sais pas, enfin...
C'est un peintre qui va venir, qui peint des tableaux de zoo. Mais c'est toujours un peu pareil, non?
Vous pensez qu'il s'en cache, lui aussi, cet homme?
Le peintre. Oui. Peut-être qu'il retrouve quelque chose de lui-même dans les animaux, je sais pas. Les animaux qu'il peint, je sais pas, peut-être, j'en sais rien.
Et pourquoi vous êtes ici, alors, ici, pour la première fois?
On connaît pas, alors on est venu voir.
Par curiosité?
Ouais. Malsaine. Alors... Ouais, en fait, c'est un air connu que les animaux sont malheureux dans les zoos. C'est pas la peine de
rien. Ouais. Sur ce que vous inspire le spectacle de ces animaux et pourquoi vous êtes ici à les regarder et quel est le plaisir?
C'est pour les enfants, pour leur apprendre à connaître les animaux sauvages qu'ils ne peuvent pas connaître. Personnellement, ça me fait toujours un peu mal au cœur de les voir en captivité parce que je me dis qu'ils sont mieux... chez eux, mais de l'autre côté, quelquefois, ça permet de faire survivre certains animaux qui disparaissent en milieu sauvage, malheureusement.
Qu'est-ce que tu aimes ici, toi?
J'aime mieux...
Qu'est-ce que tu aimes bien comme animal ici?
Moi, j'aime mieux les singes.
Et toi, qu'est-ce que tu aimes le mieux?
J'aime le mieux les phoques.
Les phoques, oui. Oui.
Vous n'êtes pas d'accord, alors, tous les deux?
Non.
Non? Pourquoi les singes, toi?
Parce que il y a des fois où ils sont marrants. Il y a des fois où il y a leur maman, elle regarde s'il y a des fous. C'est pour ça. J'aime ça.
Et comment tu les trouves ici, ces animaux? Tu les trouves à leur aise? Tu les trouves bien installés? Comment est-ce que tu trouves le décor dans lequel on les a mis?
Bien.
À votre avis, qu'est-ce que peut vouloir exprimer un peintre qui s'inspire du spectacle des animaux?
Des animaux du zoo ou des animaux en général?
Des animaux derrière leurs barreaux. Des animaux enfermés.
Oui, c'est... Ça dépend quel genre de peinture il fait, je sais pas. S'il fait une peinture réaliste ou une peinture où il s'inspire de ses idées à travers ce qu'il voit, je sais pas.
Il faudrait voir.
Oui, en effet, c'est assez particulier. Moi, ça me gêne beaucoup pour les animaux de les voir enfermés, comme je disais tout à l'heure, mais ça a des avantages et des inconvénients pour eux.
Vous les trouvez comment?
Les bêtes en cage, surtout, ont l'air tristes, et c'est sûr.
À quoi vous voyez ça?
À quoi on voit qu'elles ont l'air tristes? Ouais, elles sont complètement éteintes, elles ont le regard éteint, et elles sont amorphes. Là-dedans. Si le peintre, justement, veut montrer le... En fait, tout dépend de qu'est-ce qu'il veut dire dans sa peinture, dans ses tableaux. Mais s'il veut montrer justement le fait que les animaux sont malheureux, c'est sûr que c'est dans un zoo, ils sont plus malheureux qu'en pleine nature, c'est évident.
C'est là qu'il faut les prendre.
Tout dépend de ce qu'il veut démontrer, justement.
Non, mais il ne cache pas les barreaux qui existent, ni les cages.
Ah, si on peint les animaux du zoo, faut pas cacher les barreaux. C'est sûr, parce que s'il les peint avec l'air qu'ils ont, l'air un petit peu triste, amorphe, ou ce qu'ils ont, et... Et en faisant croire que c'est en pleine nature, ça va pas.
Après-midi de France Culture, 15h47, l'invité du lundi aujourd'hui, Eh bien, c'est le peintre Gilles Ayot. Vous venez de l'entendre pendant presque déjà une heure, et vous avez entendu aussi les réflexions qu'une promenade de Sylvie Andreu à travers les allées du zoo de Vincennes a pu faire naître. Et dans cette promenade, ce qui est apparu, c'est qu'il y avait dans les sentiments ressentis beaucoup d'ambiguïté, à la fois une curiosité, un besoin de plein air, de promenade peut-être aussi, de regarder en paix les autres, et puis une certaine gêne quand même de voir ces animaux en cage, mais la gêne au fond, elle est assez rapidement surmontée. Pour parler de ce sujet, et pour aller peut-être un peu plus loin, pour essayer de voir maintenant avec Gilles Ayot, Klaus Gruber et Francis Peter, Klaus Gruber, je vous rappelle, metteur en scène de théâtre, et Francis Peter, du Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris, qui a organisé il y a maintenant un an et demi ou deux ans, je ne sais plus, une exposition « L'animal dans l'art » depuis Lascaux jusqu'à Picasso, pour essayer de parler ensemble, tout simplement et le plus clairement du monde, d'un sujet en définitive qui paraît peut-être clair mais qui est assez obscur, c'est celui du regard que l'homme porte sur l'animal, et éventuellement, si on pouvait en dire un mot, mais c'est pas tellement sûr qu'on sache, celui du regard de l'animal sur l'homme. Si vous voulez, je vous propose rapidement un plan comme ça pour qu'on déblaye et qu'on avance vers les questions fondamentales. Si on considère Francis Peter, et Gilles Ayot, vous intervenez bien sûr, Klaus Gruber, quand vous voulez, si on considère, si vous voulez, les rapports de l'animal et de l'image, je crois qu'il faut commencer par faire une classification très simple qui nous vient de l'Antiquité en définitive. C'est que il faut avoir d'un côté les animaux domestiques et de l'autre côté les animaux sauvages. Pourquoi ? Parce que dans la tradition grecque, par exemple, eh bien, on ne peut pas sacrifier un animal sauvage, on ne peut sacrifier qu'un animal domestique, c'est-à-dire une possession qu'on a. Rapidement, les animaux domestiques, sauf si vous avez beaucoup à dire là-dessus, très vite on voit des vaches chez les frères de Limbourg en train de se promener, des chevaux, et puis il y a les Hollandais au XVIIe siècle, les vaches de Paulus Potter, d'énormes tableaux avec des vaches dans des prés très, très somptueux, très gras, très riches, avec un ciel plein d'eau au-dessus. Il y a des moutons avec les bergers de boucher, puis très vite près de nous, ce portrait de chien par Toulouse-Lautrec, vous vous rappelez, où on voit une sorte d'animal qui doit être un phoque, je crois, noir et blanc, et il y a un petit mot de Lautrec en bas du tableau, ce chien, je lui ressemble. Quand on regarde ces images animaux domestiques, Francis Peter, qu'est-ce qu'on en déduit historiquement? Est-ce que, depuis les premières images des frères de Limbourg, disons pour simplifier, jusqu'à Toulouse-Lautrec, vous assistez à une variation de sentiment ou bien c'est toujours le même?
Bien, c'est un problème qui est un petit peu difficile à exposer parce que la notion d'animal domestique est arrivée secondairement. L'homme a connu d'abord, pendant très très longtemps, des animaux sauvages. Et ensuite, il a eu des animaux domestiques et il a, sédentarisé ses civilisations. Et il a fini par connaître pratiquement plus que des animaux domestiques, tout au moins ceux qui ont fait ces grandes peintures, n'avaient pas la chance d'avoir, comme nous, la possibilité de voir de la télévision, des films ou des photographies. Et il peignait, d'ailleurs comme M. Ayot, ce qu'ils avaient à leur disposition, en fonction de leur goût particulier, mais de leurs possibilités. Et ces gens de la Renaissance, ou jusqu'à nos jours encore, qui ont dessiné des chiens, ont choisi les choses les plus simples et les plus faciles pour représenter quelque chose qui n'était pas l'homme lui-même, et quelque chose de vivant. Alors je pense que là, c'est l'homme extrêmement civilisé qui est parfaitement libre de choisir son sujet et qui choisit son sujet, comme disait M. Ayot tout à l'heure, comme une nature morte, sans chercher une compréhension de l'animal, sans chercher un sens particulier au sujet qu'il veut représenter. Pourquoi l'animal ? Bien parce que là, c'est un instinct qui le pousse, qui lui fait choisir ce sujet. Ou bien parce qu'il a eu l'occasion, mais dans le cas de Lautrec, c'est exceptionnel, par exemple.
Mais vous pensez qu'en définitive, on regarde l'animal, le vivant, comme une nature morte? C'est un peu choquant, quand même, parce qu'enfin, c'est Hollandais qui peignaient les troupeaux, ou bien c'est Français qui peignaient des bergeries. Enfin, forcément qu'ils avaient une certaine idée de ces animaux.
Oui, mais ils étaient à ce moment-là, si vous voulez, beaucoup plus près de la nature rurale que nous n'en sommes maintenant. Enfin, tout au moins nous. Je m'assimile d'une façon absolument abusive à un peintre, mais enfin, que nous n'en sommes ici, en ce sens que C'est la ville qui nous tient et qui nous donne le plus souvent ses modèles. Alors, il faut faire un effort particulier pour aller maintenant peindre des vaches et être évidemment tout à fait dans le vent.
Oui, c'est vrai, c'est ça. Si on passe maintenant, je crois que c'est important, aux animaux sauvages, c'est beau, c'est là où on aura peut-être le plus à dire, parce que l'animal domestique, après tout, dans bien des cas, c'est un objet de rendement et on en attend des ressources. L'animal sauvage, quand il s'agit de se nourrir, on attend sa nourriture. Et autrement, on n'est pas tellement sûr de savoir ce qu'on attend de lui. Alors, votre exposition, Francis Peter, commençait à Lascaux. Ça, c'est le premier témoignage d'une image d'animal par l'homme. Comment l'interprète-t-on ?
Bien, on l'interprète de façon extrêmement diverse. Il est évident que les premiers hommes qui ont pu s'exprimer étaient déjà extrêmement civilisés. Et il est vraisemblable que les tout premiers hommes, avant ceux-là, n'avaient comme possibilité que la chasse. Les animaux étaient pour eux ce que nous savons qu'ils sont actuellement encore pour certaines populations, c'est-à-dire de la viande. Ça n'empêche pas qu'ils en connaissaient évidemment la psychologie par rapport à la chasse qu'ils leur faisaient. Ils ne lui attribuaient pas cette espèce de personnalité que les hommes actuels attribuent aux animaux. Nous avons entendu les réflexions des gens qui se voient dans l'animal et se voit enfermé, se voit avec sensiblerie, se voit avec anthropomorphisme, et se voit pas comme s'ils étaient l'animal lui-même. L'animal n'est pas forcément aussi malheureux qu'il le voit. Et c'est en somme cette espèce de révolte que d'ailleurs M. Ayot exprime très bien dans sa peinture, malgré lui, semble-t-il, puisqu'il a l'air de la récuser, qui est le fait actuellement d'un courant d'idées. Mais à cette époque, en époque de Lascaux, ce n'était pas du tout ça, c'était la chasse. Et alors ces gens représentaient l'animal avec une vérité qu'on recherche peut-être actuellement, mais une vérité peut-être encore beaucoup plus grande, parce que si vous visitez, si vous avez eu la chance, comme moi je l'ai eu, de visiter Lascaux, vous voyez qu'ils ont utilisé le moindre relief pour donner de la vie et pour utiliser les reliefs anatomiques de l'animal en rapport avec les reliefs de la pierre. Alors, quelle est la signification précise ? C'est extrêmement difficile. On a parlé de rapport avec leur dieu, on a parlé d'une sorte de... Il est vraisemblable que de toute façon, il y a ou une idée religieuse, ou bien...
Quand on ne sait pas trop quoi dire, on dit que c'est magique.
C'est ça, voilà, c'est magique. C'est ce qu'on dit toujours. Personnellement, je ne sais pas. Il est possible tout simplement que ce soit des gens qui aient donné libre cours à leurs possibilités, qui aient été interprétés par les autres comme ayant été des magiciens. Mais ceux qui l'ont fait n'y croyaient peut-être pas tellement.
Je crois qu'à toute époque, ils ont eu des rapports plus vrais qu'aujourd'hui avec les animaux. À l'époque, par exemple, où ils les chassaient, d'une part, ils les connaissaient bien puisqu'ils savaient comment les capturer. Et d'autre part, autour de la chasse et derrière l'idée de la chasse, il y avait un autre rapport. Les animaux promettaient des choses... représentaient des menaces, signifiaient beaucoup d'autres choses qui aujourd'hui ont totalement disparu, je crois. Dans un certain sens, même l'étrangeté qu'ils avaient pour les hommes de cette époque représentait une sorte de compagnie, alors qu'aujourd'hui, ce n'est plus rien. On va les voir, mais on ne les trouve pas. Bon, c'est ce que disait John Berger quand il disait qu'on ne peut plus rencontrer un animal dans un zoo. Il est bien devant vous à 1m50 et jamais aucun animal n'a été aussi proche d'un homme. Je parle des animaux dangereux. Ils n'ont jamais été aussi proches des hommes que dans le cas du zoo d'aujourd'hui. Et cependant, jamais plus loin. Les Noirs qui vivent en Afrique et qui sont habitués, je ne sais pas, à chasser les lions, des choses comme ça, jamais n'ont approché un lion d'aussi près. Et cependant, ont avec lui un rapport réel. Il peut y avoir dans la distance, dans la peur, dans mille sentiments, la relation, n'est-ce pas, qu'il n'y a pas dans la présence, soi-disant présence, mais absence mise ensemble, vous voyez.
Mais il y a un contact et
Non, c'est ça que je voulais dire quand je disais qu'il y avait plus de réalité dans les animaux autrefois. Et naturellement, ça consistait sans doute à leur inventer des qualités que peut-être ils n'avaient pas. Aujourd'hui, on est devant l'animal comme devant un étranger absolu, Et à la lettre, c'est assez juste, parce que tout ce qu'on leur attribue, on le suppose. Ça ne nous a pas été dit. Je veux dire, si on trouve qu'il a l'air triste, c'est une supposition qu'on fait.
Oui, c'est une interprétation par rapport à l'idée qu'on a soi-même.
Oui. Absolument. Et je dis que dans le passé, ces interprétations avaient des chances de toucher davantage. Parce que ça concernait une véritable vie ensemble, une véritable proximité. L'un était un danger pour l'autre ou une attirance pour l'autre. L'homme et l'animal, que ça n'est plus aujourd'hui.
Il y avait une communication profonde. D'ailleurs, est-ce qu'on ne peut pas parler maintenant, je crois que ça s'enchaîne très bien, des vertus que les hommes accordaient aux animaux, de la volonté qu'ils avaient de se mettre sous leur protection, en quelque sorte, par les totems ou par l'héraldique qui a caractérisé chacun, car chacun s'est donné un animal, comme protecteur, du moins comme quelqu'un qui l'introduirait ailleurs. Il y a eu ces rapports, cette communication. Est-ce qu'elle était de la légende? Est-ce qu'elle était crue? Je ne sais pas, mais au fond, elle touche les gens beaucoup plus profondément que ces visiteurs tout à fait gentils qu'on a entendus tout à l'heure aux eaux de Vincennes et qui regardent comme ça, sans rien demander en quelque sorte.
Je pense que ces visiteurs que nous avons entendus sont dans le vent, si vous voulez. Ils connaissent, ils sont imprégnés d'un certain nombre d'idées qu'on leur a inculquées relativement récemment d'ailleurs, car on n'avait jamais entendu parler de ces problèmes de jardin zoologique il y a 40 ou 50 ans. Et ces idées correspondent aussi à une connaissance meilleure des animaux. La plupart des gens n'osent pas ou ne savent pas s'exprimer ou ne pensent pas au moment précis à ce qu'ils pourraient dire, mais ils savent énormément de choses sur la vie de ces animaux que nous connaissons tout de même maintenant un peu mieux. Nous savons que certains animaux ont besoin de tant de mètres carrés pour vivre dans un semi-équilibre, et qu'en dessous de cet équilibre-là, d'ailleurs on le sait également pour les hommes dans les HLM, et c'est pas respecté pour ça, pour autant, il faut un minimum d'espace vital, un minimum de mètres cubes. Alors, c'est cette conscience un peu instinctive qu'ont les gens que certains animaux sont malheureux parce qu'ils sont mal logés, qui correspond à une réalité humaine. Nous avons entendu des gens qui disaient qu'ils habitaient dans les HLM et qui venaient au jardin zoologique à la campagne. Alors que d'autres disent qu'ils viennent au jardin zoologique et qu'ils considèrent ça comme une prison. C'est tout simplement par relation à eux-mêmes ou à ce qu'ils connaissent. Quand vous voyez fleurir ces jardins zoologiques humains dans toute la banlieue parisienne, qui sont tout neufs, qui sont des petits villages, un jour, un courant d'opinions se lèvera et fera le même travail que sur les jardins zoologiques. On détruira tout ça et on construira quelque chose de meilleur.
Giléo.
Oui, ça, bien sûr. Oui.
On commence à glisser, là. On sort du zoo, hein. On arrive à autre chose. Vous êtes toujours d'accord, vous me suivez, là. Hein. Ça va, on peut continuer.
Oui, on peut continuer.
On peut continuer. Bon, restons dans les images pour y rester. Donc, vous avez manifesté tout à l'heure, tous les deux, que ce que le dessinateur, le peintre ou le chasseur entretenait comme rapport avec l'animal de Lascaux, disons pour simplifier, ou d'Altamira, et même sur ce qu'on a trouvé ensuite dans des fresques plus pariétales plus récentes en Afrique du Sud et ailleurs, sont des rapports francs, simples, clairs, où on sait ce que l'un sait ce que l'autre attend de lui. Hein, c'est absolument net. Ensuite, si on prend d'autres tableaux d'animaux sauvages, on a fait une liste rapide, là. Il y a un oiseau mort de Durer. Bon, il est très beau, mais disons qu'il est mort. C'est à ce moment-là qu'on peut en effet le peindre. Mais est-ce que c'est encore un peu d'intérêt? Je ne sais pas.
Non, mais je crois que ce n'est pas que les relations à l'époque de Lascaux étaient claires et nettes. C'est que je crois que ça a toujours été... Les hommes, en peignant les animaux ou en représentant les animaux, à toutes les époques, ont représenté leur relation avec eux. Et jamais autre chose que leur relation avec eux. Et dans les époques passées... ces relations avaient infiniment plus d'importance, c'est ça. Et aujourd'hui, c'est le moment où elles en ont le moins. Enfin, jusqu'à maintenant, on n'a jamais trouvé d'époque où les animaux avaient moins d'importance. Et c'est peut-être à cause de ça qu'il y a cet effort désespéré de rattraper les choses en faisant des jardins zoologiques. Autrefois, sans doute, on pensait que c'était infini et qu'on avait toujours le temps ou... On s'occupe de la chose. Aujourd'hui, dans un climat d'urgence.
Oui, fragilité, l'espèce à sauver, menacée, etc.
Oui.
Là, je crois qu'il faut passer à ce qu'on avait dit comme qu'on avait choisi un peu arbitrairement peut-être comme seconde partie, c'est la façon, les méthodes que nous appliquons, tout le monde, aussi bien les artistes, les scientifiques que les visiteurs, dans le rapport avec les animaux. Alors la méthode la plus ancienne, c'est l'arc ou la flèche ou le coup de feu, l'animal tombe et là on le naturalise. Alors là c'est un travail qui est en principe justifié par des poussées scientifiques. On veut connaître. Alors pour connaître, on commence par tuer. Et puis on empaille pour maintenir.
En fait, je crois que c'est pas du tout.
Francis, peut-être.
Je crois que ce n'est pas du tout pour des poussées scientifiques, des pulsions scientifiques. C'est tout simplement parce que quand on a tué, on en est très fier. Parce que là, il y a une pulsion profonde, certainement ancienne, primitive, qui est maintenue dans la plupart des hommes. Et le résultat de ce coup de fusil est tellement fragile, va tellement disparaître très vite, qu'on veut en garder la trace.
Donc c'est le
trophée. C'est une façon de conserver cette idée, de la matérialiser, et après on en est singulièrement embarrassé d'ailleurs.
Oui, mais enfin les dessinateurs du 17e, 18e siècle passent leur temps à représenter des animaux morts, avec une précision absolument extraordinaire. C'est superbe. Disons même encore au Dubon, au 19e, c'est... Pour tout ce qu'il a fait aux États-Unis, c'est absolument extraordinaire.
Puis mais ensuite... c'était pas mort.
Enfin,
il a représenté la majorité des animaux dans leur position naturelle.
Ouais, il y a beaucoup de morts quand même, ça c'est impressionnant. C'est une série de cadavres. Et puis, bon, ensuite, apprivoiser, alors là on sait qu'on détourne, c'est plus le vrai animal. Il est là, enfin, je sais pas, la mangouste qu'on peut avoir près de soi quand on est en Inde, c'est là, mais... Est-ce qu'elle est avec nous? Est-ce qu'elle est hors de nous? Est-ce qu'elle a franchi cette frontière?
Là, on a, si vous voulez, fait des progrès dans la conception réelle de ce qu'est apprivoiser, de ce que sont les rapports de l'animal avec l'homme. Et on a appris à se rendre compte de ce que sont les rapports des animaux entre eux, dans la même espèce, par exemple. Et on sait très bien que dans certains cas, on est un animal pour l'animal. De même qu'on sait très bien que dans certains cas, l'animal représente un personnage de rêve pour celui qui le garde auprès de lui. Les animaux de compagnie sont des animaux qui sont des personnages. Et à la limite, une mangouste ou n'importe quel animal sauvage peut être considéré par un enfant ou par un adulte dont l'esprit est suffisamment imaginatif comme un personnage avec lequel il a des rapports préférentiels et il les a réellement.
Mmh. Bien, ensuite, apprivoiser, ça peut peut-être marcher. Ensuite, c'est mettre dans des cages et on tourne autour. On connaît les trajets absolument ahurissants d'animaux sauvages au 16e, 17e siècle, rapportés de très loin et traversant toute la France. Et tout le bon peuple se pressant pour les voir passer. On ne sait pas très bien dans quelles conditions. Enfin, ça va être sûrement intéressant. Ensuite, c'est la cage, donc, où on va tourner autour. Et puis, le théâtre. Et là, je crois que Gilles Ayot... Vous avez quelque chose à dire sur ce décor? C'est quelque chose, vous l'avez dit dans vos tableaux, mais on est à la radio, il faudrait un peu préciser. C'est du théâtre. C'est un théâtre qu'on fait pour soi ou pour l'animal?
Non, pour soi-même, naturellement.
Quand on met des arbres qui sont soi-disant ou prétendus exotiques, alors qu'en fait, que c'est des arbres de chez nous, mais on a enlevé les feuilles pour qu'on ne risque pas de reconnaître un chêne ou un châtaignier. Quand on met des blocs de béton peints en blanc pour... mimer la banquise.
Non, c'est pour avoir...
Ça, c'est le grand spectacle.
Oui, c'est le spectacle. Même la chose la plus forte que j'ai vue, c'est au jardin zoologique de New York, des plantes en plastique dans une sorte d'enclos où il y avait des crocodiles, et en dehors de cet enclos, il y avait des plantes tout à fait réelles.
Ah oui, c'était assez extraordinaire. Oui, c'était un peu comme la tulipe chez Mondrian, quoi, une tulipe en plastique pour la couleur. Mais alors, depuis cette création...
C'est peut-être plus commode pour entretenir les...
Sûrement, c'est plus facile.
Pour entretenir les plantes sans se faire manger. Mais
c'est plus facile. Oui, il y a sûrement de bonnes raisons. Mais entre la mise en cage, tout pure et simple, purement hygiénique, disons, et la création d'un décor, qu'est-ce qui s'est passé dans notre conception des animaux? Qu'est-ce qui a changé, là?
Oh, qu'est-ce qui a changé? Non, rien. Peu à peu, on est devenu de plus en plus réaliste. C'est-à-dire, au début, peut-être...
On n'a pas fictionné notre image, c'est ça?
Non, au début, on construisait une cage qui était très abstraite, dans quoi l'animal était un exemple de son espèce, presque comme une page de dictionnaire. on faisait... La cage était un peu comme les bords de la feuille. Et puis, peu à peu, les eaux ont été de plus en plus réalistes. Jusqu'à devenir des parcs nationaux, enfin, jusqu'à devenir des aménagements de la imitant la nature au plus près.
Mais c'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout de nature et que les animaux pourraient être en définitive des silhouettes animées, je ne sais pas, d'une façon cybernétique par exemple, ce serait aussi...
Oui, ou bien on peut imaginer des zoos dans lesquels ce seraient les visiteurs qui seraient enfermés dans du grillage et qui passeraient comme dans des tunnels au milieu de la nature.
Oui, là je crois qu'on commence
certainement. Mais d'ailleurs, ça s'est déjà un peu fait, non?
On devient de plus en plus irréaliste. Sous prétexte de faire des décors et donner plus de confort, on tombe dans quoi?
Oui, il faut bien dire. C'est-à-dire qu'il faut bien dire que si on veut voir des animaux dans la nature, il faut presque être un spécialiste.
Ouais.
Parce que la majorité des animaux se cachent. Pas spécialement par peur de l'homme, étant donné leur rapport entre eux. Ils sont ou mangés ou bien ils sont là pour manger les autres. Alors, il faut évidemment qu'ils aient une vie qui leur est propre et que nous essayons de complètement transformer pour pouvoir les avoir à notre disposition dans les jardins zoologiques et à la disposition du public. On essaye de les montrer dans des conditions telles qu'ils soient visibles. Si vous voulez montrer à des enfants des animaux dans une réserve et y aller avec juste quelques jours, eh bien les enfants ne verront rien. Ils sont déçus. Une réserve, c'est quelque chose dans lequel il faut vivre, petit à petit connaître les heures de déplacement des animaux et puis savoir où ils vont, comment ils parcourent cette réserve et ce qu'on peut en voir. Mais dans la nature, on voit furtivement les animaux. Alors il est évident que si on veut essayer de donner au plus grand nombre une idée du volume, de l'odeur, de la démarche et de la vie autrement qu'à la télévision, autrement qu'en cinéma, eh bien il faut absolument qu'il soit présenté au public.
Oui, ça devient quand même un peu froid. Avant de venir ici, j'ai ouvert mon volume de contes de Grimm. Là, il y avait une très jolie histoire de tailleur. Je ne sais pas pourquoi c'est toujours des tailleurs à qui arrivent des histoires chez Grimm. Un tailleur qui partait de chez lui sans argent et qui arrivait devant la petite maison, une masure en paille, vraiment quelque chose de très, très misérable, très loin, où un petit vieillard l'acceptait. Et dans la nuit, il entendait un vacarme épouvantable. Il sortait, il assistait à un combat, mais effrayant, entre un grand cerf dont tous les bois étaient à leur splendeur, et un taureau noir. Et à la fin de ce combat, qui durait très longtemps, le cerf finissait de tuer le taureau noir, puis il se précipitait sur le petit tailleur, prenait le tailleur dans ses bois, et l'emportait au galop, très loin dans la forêt, et ils arrivaient dans un endroit assez obscur, une salle entièrement voûtée, avec une porte qui se refermait bien sûr derrière eux. Et là, à gauche, il y avait un grand cercueil, avec une jeune fille endormie, et à droite, une grande boîte, en cristal aussi, dans laquelle il y avait l'image d'un palais, et tous les murs étaient couverts de fioles dans lesquelles il y avait des petites flammes bleues, des lumières qui bougeaient. Et ça y est, ça suffisait à rompre le charme. C'était le beau chevalier qui allait réveiller la jeune fille. Le cerf était celui qui avait fini par vaincre le charme en tuant le taureau noir. Et à ce moment-là, qu'est-ce que c'était qu'un animal par rapport à un maigre petit tailleur? C'était quelqu'un qui était pris dans le même destin. Il y avait des pouvoirs supérieurs qui passaient sur tout le monde, qui les emportaient. Et la communication se faisait naturellement, même si le tailleur avait un peu peur, entre le cerf et lui. Et les choses allaient toutes seules. Et puis, il y a une autre page dans ce recueil, il y avait un conte que vous avez tous connu par cœur, c'est « La princesse laisse tomber son anneau dans la mare ». Et c'est un poisson qui la lui rapporte en la tenant dans sa bouche, dans sa gueule. C'est une époque donc où les rapports étaient inscrits dans une sorte de destinée générale. Simplement pour faire contraste avec ce qui vient d'être dit par Francis Peter, avec ce que vous avez dit tout à l'heure à propos de Lascaux, je crois qu'à l'époque la communication était un peu dans ce même genre. Et avant d'en arriver, parce qu'en définitive dans tout ça on s'est tenu à peu près correctement au niveau de la légende, au niveau de la science on n'est pas tellement sûr. Au niveau du réalisme, vous venez tous de démontrer qu'on arrive à une sorte d'irréalisme complet, et sinon de connaissance, du moins de connaissance, de méconnaissance, enfin, un commencement, un embryon de savoir. Alors, vous avez une réponse, Gilayo. Si, vous avez apporté un texte.
Ah oui.
Vous avez apporté un texte de Kleist.
Ah oui, je crois que c'est maintenant qu'il faut le lire. Kleist, oui, enfin, il est complexe parce qu'il dit beaucoup d'autres choses. Bon, je lis ce texte. Au cours de mon voyage en Russie, je me trouvais dans les terres d'un gentilhomme livonien, monsieur de G, dont les fils faisaient beaucoup d'escrime à cette époque.
L'aîné surtout, qui venait de quitter l'université, se piquait d'être une fine lame, et un matin, dans sa chambre, il m'offrit une épée. Nous nous battîmes. Il arriva cependant que je lui étais supérieur. La passion augmentait son trouble. Presque chaque coup que je portais le touchait, et finalement sa rapière vola dans un coin. En ramassant son arme, il me dit, moitié plaisantant, moitié sensible, qu'il avait trouvé son maître, et qu'en ce monde chacun trouvait le sien. Dès lors, il voulut me conduire chez mon maître. Ses frères éclatèrent de rire en criant, « Allons, allons, descendons au bûcher. » À ces mots, ils me prirent la main et me conduisirent près d'un ours que leur père, Monsieur de G, faisait élever dans la cour. Lorsque, tout étonné, je l'abordai, l'animal se tint debout sur ses jambes de derrière, s'adossant au poteau auquel il était attaché, la patte droite levée pour frapper et en me regardant dans les yeux. C'était là sa garde d'escrimeur. Devant un pareil adversaire, je ne savais plus si je rêvais. Frappez, frappez, me dit Monsieur de G, et essayez un peu de le toucher. À peine remis de ma surprise, je me fendis avec ma rapière. L'ours fit de la patte un petit mouvement et para le coup. J'essayais de l'égarer par des feintes. Il ne bougea pas. Je fis encore une passe, si rapide qu'elle aurait certainement percé la poitrine d'un homme. La bête para le coup d'un mouvement court. J'étais à présent à peu près dans le cas du jeune Monsieur de G. Le sérieux de l'ours contribuait à me déconcerter. Les coups et les feintes se succédaient. J'étais couvert de sueur. En vain. Non seulement l'ours parait tous mes coups comme l'eût fait le meilleur escrimeur du monde, mais, ce en quoi nul tireur ne l'imitera, il ne condescendait même pas aux feintes. Debout, me regardant fixement dans les yeux comme s'il lisait dans mon âme, la patte levée pour frapper, il ne bougeait pas si mes coups n'étaient exécutés pour de bon.
Ah, alors... Voilà, Francis Peter, un texte de genre où les conditions sont réunies pour qu'un animal et un homme se regardent en face. Ce sont celles du combat.
Oui.
Oui, Claude Gruber. Vous parlez dans le micro, s'il vous plaît.
Oui, merci.
Voilà. Oh, touchez pas au micro, voilà, comme ça.
Je voulais seulement dire, parce que le texte, ça me semblait intéressant et important, parce que ça me gêne un peu de parler de Gilles Ayot comme peintre des animaux. C'est plutôt la peinture d'une énergie. Une énergie que, je ne sais pas, alors il faut faire la philosophie des animaux, etc. Mais c'est plutôt ça. C'est une stratégie. C'est une, et qu'est-ce qu'ils présentent là? Qu'est-ce qu'ils sont, ces animaux-là je ne peux pas décrire, mais ils sont tout très calmes, très doux. Ils ne sont pas provoqués comme dans une présence humaine comme dans le récit de Kleist, pas encore, pas encore, mais on trouve cette espèce d'énergie qui est très secrète, première chose, très secrète, et c'est pas, il faut inventer des nouveaux tactiques vis-à-vis. Ça veut dire ça, le récit de Kleist, ça, je le trouve très, très, très précieux dans cet contexte, parce que là, quelqu'un a affronté et a subi l'échec.
Oui.
Absolument. Oui. Et ça qu'on sent, dans les... Je ne sais pas, parce que maintenant, je ne voudrais pas parler sur la peinture, parce que je ne peux pas. Et il y a à faire une histoire sur la lumière, par exemple, d'Ayo, parce que c'est une lumière absolument nouveau, absolument étrange. Mais si, quand on parle des animaux, ils sont là. Il ne faut pas les... Ils sont là, mais il ne faut pas mettre en premier plan comme sujet primaire. C'est cette étrange énergie qu'il y a dans cette chercher
un secours
que la non provocata ancora
sì.
que
Je n'ai pas encore provoqué.
Oui.
Vous approchez un peu, s'il vous plaît. Ah, touchez pas au micro, soyez gentil, ça fait des bruits épouvantables. Voilà,
il n'a pas été encore provoqué.
Voilà.
Non, j'ai voulu dire seulement cette chose-là parce que ça me gêne de faire une discussion sur Jules Ayot, peintre des animaux comme ça, parce qu'on on est arrivé ici, on a écouté les nouvelles, les informations. Alors je me suis improvisé, je me suis demandé, l'information continue ou continue pas? Ça veut dire, ou parler de Brigade Rouge d'un côté et de... j'ai écouté toutes les batailles à Malraux, à Aragon, etc. Alors, c'est notre culture, ça, ou je ne sais pas. Et alors, j'ai cherché d'improviser un peu sur le moment, et je peux écouter, je le peux lire, je le peux voir, et une espèce de continuation des informations. Et je l'ai vu dans cette tube d'énergie, une énergie extrêmement dangereux parce qu'on ne le connaît pas. On pense à une certaine calme, à une certaine... Oui, des masses lourdes. Mais on comprend la vitesse, on comprend la trajectoire aussi.
Oui, on comprend dans leur immobilité à quel point la vitesse sera foudroyante quand ils bougeront.
Et ça, politiquement, ça m'intéresse beaucoup. Oui. Et c'est pour ça que... J'ai voulu un peu changer le discours vers l'énergie et pas seulement sous l'histoire des animaux.
Ouais, non, mais c'est ça que dit le texte de Kleist. Oui.
Mais n'oubliez pas que votre ours était attaché.
Oui, non, mais attaché ou pas attaché, il a besoin de presque aucun effort pour être beaucoup supérieur à son adversaire. C'est-à-dire qu'il a une vitesse.
Il ne fait pas les feintes.
Oui, il n'a pas besoin de feintes. Il fait la différence entre la feinte et l'exécution, même dans la plus extrême rapidité d'exécution.
Mmh. Alors, le rapport...
Et ça, effectivement, c'est une chose qu'on sent devant tout animal endormi. Klaus a tout à fait raison. Quand on voit un rhinocéros endormi, là, on peut même toucher la peau de son dos. Il arrive qu'il soit contre les barreaux, on le touche. Et il ne bouge absolument pas. Mais on sait très bien... que si rapide qu'on soit, on serait moins rapide que lui. Qui peut d'un seul coup sortir de son sommeil et tourner la tête à une vitesse incalculable.
Donc, c'est cette énergie en réserve qui peut se déclencher, qui se déclenchera un jour que vous voyez, vous, Klaus Ruber, dans les eaux et dans les tableaux de Gilles Ayot. Mais les vrais rapports, pour les préciser, les rapports possibles et honnêtes qui peuvent exister entre un animal et un homme, quels sont-ils? C'est celui de l'escrimeur face à l'ours, où ils se regardent pour une fois en face, l'un de l'autre. C'est celui du torero face au taureau dans l'arène, encore que l'arène soit encore un théâtre. Hein. Mais on imagine qu'on pourra peut-être un jour sortir d'un théâtre. Quels sont les vrais rapports qu'on peut avoir? Est-ce que c'est possible d'avoir des rapports? Est-ce qu'on peut sortir un peu de cette peau et aller voir du côté des autres peaux?
Moi, je pense que c'est possible, bien entendu, c'est possible, mais de toutes les façons.
Mais on l'a fait jusqu'à présent. On a peu de temps, allons vite. On l'a fait jusqu'à présent de façon très, très trompeuse, en quelque sorte. Il y a eu les rapports à travers la légende, le paradis, on était tous ensemble, pas de problème, on communiquait.
Mais le même ours, là, du récit, transporte sans doute les enfants sur son dos, et comme dans les récits de Tolstoï, dévale la pente en tenant l'enfant dans ses bras. En roulant sur lui-même. Oui. C'est-à-dire, le même ours qui combat aussi bien peut parfaitement bien avoir un rapport d'un autre type.
Alors,
théoriquement.
On
dit que c'est impossible.
Est-ce que
non, quand il est apprivoisé.
Il y a peu de temps, là. Il faut vraiment conclure. Excusez-moi, je vous pousse un peu. Est-ce que le seul espoir qu'on ait de coexister, de les regarder et qu'ils nous regardent, cette espèce de mythe du paradis où on était côte à côte et on dormait les uns dans les autres, et on ne peut pas inventer autre chose?
Bien, il n'y a rien d'autre à inventer que la nature elle-même. Oui. Il ne faut pas l'inventer.
La nature, on sait qu'elle est combat.
Il faut l'apprécier. Il faut essayer d'en conserver suffisamment pour qu'on puisse y vivre en contact autant que possible avec les animaux, avec tout de même une notion tout à fait nouvelle, c'est que nous pouvons connaître beaucoup de choses sur ces animaux maintenant, alors qu'il y a encore très peu d'années, on ne connaissait rien du tout.
Mais l'important, Gilles Ayot, ce ne serait pas que les animaux connaissent beaucoup de nous aussi? Et qu'est-ce qu'ils savent?
Ah bon, Là, on entre dans le domaine des suppositions. C'est comme disait Lacan. Enfin, si on dit que le moi,
non, mais je retourne la question.
Que le sujet ressemble à une huître.
Est-ce qu'on peut connaître sans être connu? Pour un
oui.
peintre.
Ben, connaître. On ne fait que ça.
Oui, sans être connu, c'est très difficile.
Mais on n'est pas connu par le bois de la table qu'on scie et dont on construit des meubles, etc.
Non, mais il y a quelque chose qui a un regard et qui vous regarde. On voudrait... Est-ce que c'est pas ça, les Ronades dans les eaux, qu'on a envie d'être connu du tapir aussi et qu'on se montre?
Non, ça c'est notre extraordinaire étrangeté par rapport aux animaux, c'est qu'effectivement, on ne peut pas demander une réciprocité de ce type-là.
Alors c'est...
Il y a cependant des gens qui l'ont. Il y a des gens qui vivent avec eux quotidiennement et qui ont cette réciprocité, mais quand vous circulez dans les rues ou dans le métro, vous n'êtes pas connu de tout le monde. Voilà, c'est la même chose.
Je crois qu'il faut conclure parce qu'on a bouclé la boucle. On était parti de votre refuge, Ilayo, qu'on considère les zoos comme une prison. Et puis voilà que le zoo, ça redevient la rue, que nous avons vu que c'était le HLM. Ça y est, on ne se sort pas de l'humanité et on fait de l'anthropomorphisme. Vous n'êtes pas trop triste?
Non, c'est un endroit du monde comme les autres, comme un autre.
L'invité du lundi, une émission préparée par Françoise Deville et Sylvie Andreux et Pierre Descargues. Aujourd'hui, avec la collaboration majeure, principale, de l'invité lui-même, c'est-à-dire de Gilles Ayot, et l'intervention dans la dernière partie de notre débat de Klaus Gruber, metteur en scène de théâtre, et de Francis Peter, du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris. Je vous rappelle que si vous souhaitez obtenir une cassette de cet enregistrement, c'est tout à fait simple, puisque désormais, les émissions d'après-midi de France Culture, l'invité du lundi, sont disponibles en cassette. Il vous suffit de vous adresser à Cassette Radio France, 75 786 Paris, CEDEX 16.
Cette émission a été diffusée la première fois le 24 avril 1978 sur France Culture. Vous pouvez la télécharger et la réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr. Thank you.